les médias francophones publics.
Radio France,
RTBF,
Radio-Télévision Suisse,
Radio-Canada.
Et bonjour à tous, soyez les bienvenus dans la dernière librairie francophone de la saison, avant le retour de la librairie francophone estivale tout l'été, mais ça, on en reparle à la fin de cette émission. Un beau programme pour conclure cette saison particulière. Nous partirons à Nice, dans le quartier d'enfance de Jean-Marie Gustave Leclésio, prix Nobel de littérature. Il vous racontera ses 5 premières années pendant la guerre, comme il le fait dans un très beau livre qui vient de sortir chez Gallimard. Nous irons dans un parc de Montréal avec les Cowboys Fringants, le plus célèbre des groupes québécois. Il sera question d'écologie et d'une action importante menée par Jérôme Duprat et ses acolytes. Amélie Nothomb vous parlera des chats avec Stéphanie Hochet, un extrait d'une conférence donnée en public à la Maison de la Radio en France, un moment décalé à ne pas manquer. Et puis une surprise pour clore cette librairie francophone saison 2019-2020.
La librairie francophone, Emmanuel Kérad.
De retour en studio avec un plaisir immense. Et les libraires qui sont bien sûr avec nous en multiplex. Bonjour Déborah Damblon.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes libraire à Bruxelles dans la librairie La Licorne. On commence avec votre anecdote de libraire, Déborah. Une petite histoire.
Ah oui, une petite histoire, Emmanuel, parce que vous savez, quand on est libraire, on a quand même des petits moments de grande solitude de temps en temps. Alors, je vous en partage. Un jour, il y a un jeune garçon qui arrive avec un enthousiasme débordant, si vous voyez ce que je veux dire, et il me demande le Père Goriot de Balzac. Alors, ouais. Moi, je lui montre tout ce qu'on a, toutes les éditions, et puis il me dit qu'il va choisir celle qui a le moins de pages. Alors du coup, ben, je lui explique que c'est le même texte dans tous, hein, exactement, et que s'il y a moins de pages, juste c'est écrit plus petit et que c'est probablement moins agréable à lire.
Oui.
Et ben, il a quand même pris celui qui avait moins de pages.
Mais c'est vrai que voilà. Quand on attaque le Père Goriot, quand on est au collège, ça fait un peu peur. Je me rappelle très bien de ce moment-là et j'ai détesté Balzac à ce moment-là, alors que je l'adore aujourd'hui, vous voyez comme quoi.
Tout pareil pour moi, Emmanuel.
Voilà. Il faut obliger les enfants à lire le Père Goriot, c'est sûr.
Oui, mais peut-être que si c'est pas écrit trop petit, c'est moins désagréable.
Oui, c'est vrai. Bon, merci Déborah. Ensuite, c'est Dominique Bressoud de la librairie Une Petite Prose à Boudry qui est avec nous pour cette dernière. Bonjour Dominique.
Bonjour. Bonjour Emmanuel.
Bonne nouvelle enfin Dominique, on vous retrouvera dans la version télé de la librairie francophone qui reprend une nouvelle émission à partir du 26 juin sur RTS2, RTBF La 3, ici RTV et sur TV5 Monde. Vous êtes prête Dominique ?
Oui, je m'en réjouis autant que vous.
Ah bah oui, carrément. Et Josiane Letourneau aussi sera avec nous. Bonjour Josiane.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes notre libraire de Montréal, dans la librairie du Square. Vous représentez donc le Canada pour la radio et aussi pour la version télé. Pour la France, c'est Thomas Auxerre qui est avec nous. Bonjour Thomas.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes libraire dans la librairie Lamandier, plutôt, et une histoire de libraire à nous raconter aussi, une anecdote Thomas.
Oui, c'est ça. Alors, pour une fois, on va dire que c'est peut-être plutôt une sorte de fleurilège, parce que vous savez qu'on accueille beaucoup de clients dans la journée, plein de lecteurs qui ont des fois des demandes un petit peu saugrenues. Alors là, ça ne porte pas forcément sur les livres, mais je vous ai fait une sorte de best-of de ce qu'on m'a déjà demandé en rayon, alors que, bah, évidemment, je n'en ai pas. Mmh. Donc, on m'a déjà demandé des coupongles, on m'a déjà demandé si je vendais des lunettes, on m'a déjà demandé, mais alors avec un aplomb incroyable, si je vendais par hasard des aquariums.
Des aquariums ?
Des aquariums. Donc, en répondant très gentiment en criant, bah non, vous savez, on est une librairie. Bah, justement, monsieur, vous devriez en vendre. Bon. Et puis, il nous est aussi déjà arrivé une toute petite dame très sympa qui était devant le rayon des sciences humaines, qui indique du doigt le rayon et qui dit, est-ce que vous vendez ça ? Alors, il y avait un livre de Michel Onfray en couverture. On lui dit, bah ah, oui, Michel Onfray, bien sûr, on le vend. Il fait, non, non, ça. Alors, on dit, bah le rayon en général, bah enfin, oui. Elle dit, non, le autour.
L'étagère.
Et en fait, on a compris que c'était l'étagère. On a acheté l'étagère. Donc, alors, on lui a dit, bah non, on n'est pas un magasin de meubles. Ça serait avec plaisir, mais... Donc, voilà. Il arrive des fois que l'humain nous surprenne, et ça, ça fait toujours plaisir.
Ah oui, tout n'est pas à vendre dans une librairie, rappelons-le. Et surtout pas les libraires, on les achète pas. Bon, merci pour cette histoire Thomas. Je vous rappelle notre opération, hashtag un livre chez mon libraire sur Twitter et Instagram. Le principe est simple, vous achetez un livre chez un libraire indépendant, vous prenez une photo dans la librairie bien sûr, et vous la partagez sur ses réseaux sociaux, comme l'a fait Lisette 88460 à Épinal dans la librairie Quai des Mots, qui craque, dit-elle, à cause de cette opération. Elle est allée du coup deux fois chez son libraire acheter des livres. livres, tant mieux. Bravo, continuez à acheter vos livres chez un libraire indépendant. Prenez une photo et partagez-la sur Instagram ou Twitter. Hashtag un livre chez mon libraire. Dans un instant, une balade en pleine nature dans un parc de Montréal avec les Cowboys Fringants. On écoute le son de la francophonie tout de suite avec une nouveauté musicale qui est numéro 1 en ce moment dans un pays de la francophonie. On part au Vietnam aujourd'hui avec Bic Pho Wong qui est numéro 1 partout.
Một người phải với người thơ, một người nói dối quá tội. Tình yêu với em như ngồi đèn thiêng liêng, giờ em chẳng muốn cầu nguyện. Biết đâu được hai ta sớm có kết cục buồn, nỗi đau này em đưa cho cơn gió cuồng. Điều gì xảy ra với em?
Bic Pho Wong, numéro 1 en ce moment au Vietnam. Mais du Vietnam, on part en reportage au Canada.
La librairie francophone, Emmanuel Kérad.
Voilà, nous sommes dans le parc Jeanne-Sauvé, quartier Aounsic, au nord de Montréal. Et cette fois, nous sommes avec le membre de l'un des groupes canadiens les plus célèbres. Bonjour Jérôme Duprat.
Bonjour Emmanuel et tous les auditeurs.
Tous les auditeurs qui nous écoutent à travers le monde. Vous êtes membre du groupe Les Cowboys Fringants, un groupe engagé, écologiste, militant. Il y a même une fondation Cowboys Fringants pour défendre l'environnement québécois. C'est vous qui avez choisi de faire ce reportage ici. On vous a donné carte blanche. Pourquoi sommes-nous là, en lisière de bois?
Bien, nous sommes dans le quartier le plus au nord de l'île de Montréal. Donc, on est tout près de la rivière des Prairies. Et d'abord, c'est le quartier où j'habite, donc c'est près de chez moi, c'est pratique. Mais aussi, c'est un quartier où nous sommes intervenus avec la Fondation des Cowboys Fringants pour reboiser, revégétaliser l'île et la grande région de Montréal. Donc, c'est pour vous en donner un des exemples.
Partons dans l'herbe, hein, directement, avec tous ces arbres. C'est très, très vert. C'est un quartier qui est très vert. Ah, tiens, on a des musiciens juste là, dites donc. Vous les attirez, en fait.
Il y en a un peu partout. La journée s'y prête aussi. Hein. C'est une journée de canicule aujourd'hui. Ouais. Il fait près de 40 Celsius avec l'humidité ressentie.
Vous avez lancé avec votre fondation un projet de plantation d'arbres. Donc, votre but est d'en planter 1 million.
Oui, ben en fait, le projet de la fondation, on l'a lancé en 2014. Et on s'est dit, lorsqu'on fait des anniversaires, donc pour le 375e anniversaire de Montréal, on parle toujours d'infrastructures de legs. Et dans ce cas-ci, dans la plupart des autres cas au Québec, les legs sont souvent bétonnés. C'est des infrastructures grises, des promenades, et c'est très bien. Mais nous, on a eu envie, les cowboys, avec des amis d'organisations environnementales, de faire un leg vert, des infrastructures naturelles. Donc, on s'est dit, allons-y pour le symbolique et tentons de planter 375 000 arbres.
Pour les 375 ans, oui.
Exactement. Donc, ça démarre en 2014. Nous, on a fait ce qu'on fait de mieux, c'est-à-dire faire des concerts bénéfices. Il y a eu des donateurs privés et publics. Beaucoup de gens ont embarqué dans ce projet. On a annoncé qu'on avait réussi à financer 410 000 arbres. La moitié de la mission accomplie parce que maintenant, il faut les mettre en terre.
Alors, justement, devant nous, il y a des plantations.
En fait, ici, c'est un dispositif scientifique. C'est une initiative internationale qui a été démarrée par deux chercheurs ici, un chercheur à l'Université du Québec à Montréal et un chercheur à l'Université du Québec en Outaouais. Et ça vise principalement ici à sensibiliser la population, à dire que quand on plante un arbre, faut le planter pour l'environnement futur. Donc, l'idée de ce dispositif scientifique, c'est d'alerter les différentes parties prenantes, les citoyens, de dire « essayons d'avoir une stratégie de plantation qui nous permet d'avoir une plus grande résilience pour les différentes échelles. »
C'est un vrai poumon ici, hein. C'est vrai qu'on est, on respire très bien d'ailleurs. Ça change de la ville parce qu'on est vraiment au milieu des arbres avec une herbe verte incroyable. Ouais, on va se rapprocher de l'eau là, juste là. Dans la chanson « Plus rien » qui figure sur l'album « La Grand-Messe » aux côtés de votre tube « Les étoiles filantes », vous évoquez le changement climatique et vous anticipez un désastre écologique et humain.
« Ne reste que quelques minutes à ma vie. » Au plus quelques heures, je sens que je faiblis. Mon frère est mort hier au milieu du désert. Je suis maintenant le dernier humain de la terre.
Évidemment, dans une chanson de 3 minutes, on peut pas y aller de multiples subtilités. Alors, c'est souvent noir ou blanc. Effectivement, on décrit certaines situations, on y va d'une façon plus dure. Et ce qu'on aime bien, justement, de cette fondation, c'est un peu, c'est notre bras armé positif.
Et vous l'autofinancez, hein, cette fondation. Il faut savoir que vous reversez entre 1 et 2 dollars sur les places de concert. Et puis, aux alentours de 25 cents, c'est ça? 50 cents par album vendu?
Oui, 50 sous par album vendu. Des fois, jusqu'à 1 dollar, on reçoit des dons de fans ou de gens qui appuient nos causes. Et notre fondation est 100% bénévole. Et l'idée, c'est aussi de redonner dans les collectivités. Donc, quand on fait des concerts à Montréal, on essaie de redonner pour Montréal. La même chose dans les régions du Québec. Quand on tourne en France, en Belgique, en Suisse, on essaie de trouver des associations locales et de faire des projets sur place. Donc, le même principe est aussi en vigueur en Europe où 1 euro par billet est remis à des associations locales.
Avec cette étendue d'eau magnifique et cet aspect très, très paisible ici dans ce quartier de Montréal. Alors, on va traverser cette piste cyclable avec des transats dans lesquels on passe, des transats en bois fixe, du mobilier urbain fixe avec des installations pour poser son vélo et se relaxer.
Voilà, c'est un exemple ici d'un segment de rue, là, le boulevard Gouin, où on a retiré la circulation automobile pour laisser place. Ici, les seules routes qu'on voit, c'est un sentier pédestre en bordure de l'eau, une piste cyclable et une aire de repos.
Quand le groupe Les Cowboys Fringants a commencé à avoir du succès, on a dit que vous représentiez la nouvelle vague des artistes produisant de la chanson engagée. Dans les années 80 et 90, on ne va pas citer de nom, encore que si vous avez envie, vous pouvez, mais il y avait une chanson très commerciale avec des artistes qui produisaient de la musique très commerciale pour représenter le Canada. Alors, du coup, vous, quand vous êtes arrivé, ça a été différent. Vous le revendiquez, ça? Vous continuez dans ce sens-là?
Oui, ben en fait, nous, c'est pas qu'on le revendique, mais c'est vraiment notre façon de faire les choses. On est un groupe, on est à la base 4 amis qui faisons de la musique ensemble depuis maintenant 22 ans. Et on est très peu, disons, plateau télé ou le succès commercial, on le chérit évidemment parce que c'est ce qui nous permet d'en faire un métier. Mais
oui, c'est le cas,
oui. Mais
c'est très rare dans les médias, c'est vrai.
Exactement, on n'est pas prompt à faire ce quoi on n'est pas à l'aise.
Moi, je veux passer à la télé, moi, je veux que tous les gens me voient. L'important, c'est que je fasse parler de moi. Moi, je veux passer à la télé, moi, je veux que tous les gens me voient. L'important, c'est que je puisse parler de moi.
C'est très étonnant, hein, votre démarche, Jérôme Duprat, parce que d'un côté, vous êtes des stars du monde francophone avec la musique. Voilà, vous montez sur les plus grandes scènes du monde francophone avec un franc succès. Et en même temps, vous êtes vous-même scientifique. On n'en a pas parlé, mais vous êtes professeur au département sciences naturelles de l'Université de Québec. Et vous avez reçu la plus prestigieuse récompense du gouverneur général du Canada lorsque vous étiez étudiant pour votre thèse sur... Alors, je ne vais pas citer tout l'intitulé parce que c'est long. Sur les services écosystémiques dans la région de Montréal.
Oui, mais en fait, moi, j'ai toujours mené cette vie-là parallèle de scientifique. J'ai fait le baccalauréat, la maîtrise, le doctorat et arrivé en bout de ligne, là, donc à la fin du parcours académique, je me suis dit, quel boulot pour être le seul compatible avec la musique, parce que le groupe, c'est ma vie également. C'est des amis, on a commencé adolescents ensemble. Donc, celui de professeur collait bien parce qu'on peut faire les horaires, on est en contact avec des jeunes, la recherche scientifique, ça m'anime également.
Et vous arrivez à concilier musique et recherche, sans problème?
C'est parfois difficile.
Ouais.
Des fois que je fais beaucoup de rencontres sur Skype avec les étudiants, ouais. Mais c'est tellement deux mondes différents qui m'amènent, quand je viens de faire une longue semaine à l'université, là que j'arrive sur scène, porté par l'énergie du public, et inversement, quand je retrouve des étudiants avec des yeux brillants qui me parlent de leurs travaux de recherche.
Et qui vous ont vu sur scène, sans doute.
Oui, oui, ouais. Ça m'est arrivé en début de carrière quand j'enseignais des cours et les étudiants arrivaient avec un chandail du groupe aux examens. Peut-être pensant que je donnerais une réponse plus facile à une même main levée, mais bon.
Ça a marché?
Non, non, je muais comme une carpe, et voilà.
Alors que le soleil se voile un petit peu avec les nuages, on est vraiment au bord de l'eau. Hein. On pourrait toucher la rivière là qui est juste à côté de nous. Merci beaucoup, Jérôme Duprat.
Merci infiniment.
Merci pour ce reportage ici à Montréal dans ce parc et le quartier Aounsic au bord de la rivière. Votre projet Nos Forêts Chantées avec d'autres artistes québécois dont on a parlé est sorti sur le label La Tribu. À bientôt. Merci, Jérôme.
À bientôt. Au revoir.
Et à suivre le nouveau roman autobiographique de Jean-Marie Gustave Leclésio, on l'a rejoint à Nice dans le quartier de son enfance pour la première fois à la radio. Avant cela, on reste avec les Cowboys Fringants. Voici leur nouveau titre dans la librairie francophone.
Malgré nos vies qui s'emballent dans une époque folle, où rien nous détourne du simple instant présent, alors que tout s'envole avec le temps. Malgré la mort, celle qui frappe et qui nous fait pleurer, ou bien celle qui un jour, tôt ou tard, nous fauchera, je m'accroche les pieds ici-bas. Celui qui nous fait vivre d'espoir, qui parfois fait si mal quand on reste sur le seuil d'une trop courte histoire, sans qu'on le veuille. Malgré la haine qui souvent nous retombe sur le nez et les caves qui s'abreuvent de ce triste crachat, je m'accroche les pieds ici-bas. Tant que mes yeux s'ouvriront, je chercherai dans l'horizon la brèche qui s'ouvre sur mes décombres, la lueur dans les jours plus sombres. Tant que mes pieds marcheront, j'avancerai comme un con, avec l'espoir dans chaque pas, et ce jusqu'à mon dernier souffle. Malgré les merdes, les revers, les choses qui nous échappent, les petits, les grands tourments, les erreurs de parcours et tout ce qui nous rattrape dans le détour. Malgré l'ennui, le trafic, les rêves inachevés, la routine, le cynisme, l'hiver qui finit pas, je m'accroche les pieds ici-bas, ici-bas. Tant que mes yeux s'ouvriront, je chercherai dans l'horizon la brèche qui s'ouvre sur mes décombres, la lueur dans les jours plus sombres. Tant que mes pieds marcheront, j'avancerai comme un con, avec l'espoir dans chaque pas, et ce jusqu'à mon dernier souffle ici-bas.
C'était les Cowboys Fringants avec Ici-Bas.
Les médias francophones publics.
Radio France.
RTBF.
Radio-Canada.
Radio-Télévision Suisse.
La librairie francophone. Emmanuel Kérad.
Voilà pour cette dernière librairie francophone de la saison, d'une saison très particulière cette année. Nous sommes avec un fidèle prix Nobel de littérature, écrivain du monde, celui avec quelques autres qui incarne le mieux l'identité et les valeurs internationales de cette émission. Bonjour Jean-Marie Gustave Leclésio.
Bonjour Emmanuel. Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous avez publié juste avant le confinement Chansons bretonnes, suivi de L'enfant et la guerre chez Gallimard, deux contes qui nous emmènent en Bretagne et à Nice, où nous sommes actuellement pour cet entretien. Deux endroits, deux lieux qui ont marqué votre enfance. Vous êtes né au début de la guerre, en 1940, ici même.
pas très loin d'ici, c'est votre quartier ici, puisqu'on est dans le quartier du Port. C'est la ville de vos premiers souvenirs?
Oui, c'est peut-être l'endroit que je connais le mieux au monde. J'ai vu le jour à Nice. Avant de quitter Nice, il y a eu probablement des émotions très fortes dans la lumière de l'été niçois. Et puis ensuite, la guerre, une partie de la guerre passée à Nice, une autre partie dans l'arrière-pays. Donc je connais bien la région, je peux dire.
Et votre premier souvenir est le souvenir d'une bombe tombée dans le jardin de l'immeuble de votre grand-mère, immeuble qui se trouve juste derrière l'hôtel Saint-Paul où nous sommes en ce moment.
Oui, c'est un souvenir assez fort en réalité, un souvenir sur lequel je n'ai pas pu mettre des mots pendant très longtemps. C'était juste le souvenir de quelque chose d'extrêmement violent, un bruit extrêmement violent. Et j'ai appelé ce texte « Conte » parce que je ne suis pas sûr du tout de mon souvenir. Alors j'ai fait une petite investigation, j'ai regardé dans les rubriques de l'époque, est-ce qu'il y a une bombe vraiment qui est tombée à côté de l'immeuble de ma grand-mère ? Et heureusement, un voisin rencontré par hasard dans la rue m'a remis une photo dans laquelle on voit l'immeuble qui est voisin de ma grand-mère détruit par la bombe. Donc la bombe a vraiment eu lieu. Et ça peut être daté du début du bombardement des Canadiens et des Anglais sur la Côte d'Azur, chercher à déloger les Allemands. Donc il y a vraiment eu une bombe qui est tombée à côté. Mon souvenir ne m'a pas menti, mais cette émotion correspond à un événement réel, un événement très fort dans ma vie.
Et une émotion terrible, vous le dites ça, ce tremblement. Alors effectivement, vous parlez de conte. C'est étonnant parce que quand on parle de conte, on se dit que c'est le domaine de l'imaginaire, que c'est le domaine du rêve. Et effectivement, vous racontez des souvenirs entre 0 et 5 ans. Donc les souvenirs, ils ne sont pas précis. Ça ne peut pas être des contes autobiographiques, pas vraiment en tout cas, parce qu'il y a un doute sur la véracité de vos propos alors.
Oui, et pour ça que j'ai tenu à mettre le mot conte, parce que je pense que ça ne pourrait pas être intitulé mémoire ou souvenir d'enfance, ça serait rendre ça trop simple, trop facile. Je pense qu'il y a des éléments qui sont forts, comme cette bombe qui est tombée, des impressions fortes comme celle d'avoir faim, d'avoir froid, l'impression de peur qu'on avait au moment de la guerre. Mais ce sont des impressions sur lesquelles je ne pourrais pas mettre véritablement de mots, parce que ça a eu lieu avant mon accès au langage. Donc après, me souvenant de ça, j'ai mis des mots sur ces événements. Mais sur le moment, il n'y avait pas de mots.
Ouais.
C'était des bruits. Des sensations, des peurs, des troubles physiques même,
ouais.
Assez forts.
Ouais. Bon, le refuge de votre mère, de votre frère et de votre grand-mère, c'est un petit village dans la vallée de la Vésubie, à Roquebillière, car à un moment, il faut partir d'ici. Dans le quartier où nous sommes, ici à Nice, ça commence à être dangereux pour vous parce que les Allemands arrivent, n'ont pas confiance aux Italiens, ils se disent qu'ils ne tiennent pas assez les choses, et surtout, ils savent, les Allemands, qu'ici, il y a des artistes, il y a des acteurs, il y a des comédiens, des écrivains aussi, et il faut remettre la main sur Nice. Donc, vous partez.
Oui, mais pas parce que nous étions des artistes, mais nous étions britanniques.
C'est ça.
Ils étaient à la poursuite des Britanniques. Ils avaient
l'île Maurice, en fait, était oui. Britannique.
Oui, c'est une possession anglaise. Donc, mon père était britannique, mon grand-père britannique, ma grand-mère par mariage devenue britannique, ma mère l'était aussi, nous l'étions aussi. Donc, nous étions désignés pour aller grossir les rangs des déportés.
Et c'est dans ce même secteur que des habitants ont accueilli des migrants récemment. On en parlait ensemble sur la plage de Saint-Malo il y a 2 ans, je ne sais pas si vous vous souvenez, moment que l'on a rediffusé d'ailleurs fin mai dans l'émission. Et vous notez dans ce récit l'incroyable solidarité de Saint-Martin-Vésubie et de Roquebillière. Ce sont les mêmes qui, 50 ans plus tard, vont accueillir les migrants.
Oui, ce sont des gens assez étonnants. Ce sont des montagnards assez rudes. La plupart sont des bergers ou des agriculteurs occasionnels. Ce sont des gens qui ont une écorce très rude et qui ne sont pas d'ailleurs très bavards. Ils ne sont pas très amicaux quand on les rencontre. Mais ce sont des gens fidèles et ce sont des gens qui ont beaucoup de courage. J'ai beaucoup de respect pour eux.
Oui, vous dites que vous aviez vécu à peu près la même chose que les migrants.
Oui, c'était assez semblable parce que nous étions en fait des fugitifs. Les papiers que j'ai vus qui appartenaient à ma mère, qui avaient été visés par les autorités allemandes, portaient le mot « fugitif » écrit en allemand. Nous étions donc des gens qui se cachaient, qui cherchaient à échapper à quelque chose. Et nous étions fugitifs au même titre que ceux qui fuient une guerre ou une situation de détresse dans un pays du tiers-monde et qui passent la frontière pour se réfugier dans un pays où ils pensent qu'ils vont avoir un accueil plus favorable.
Alors vous quittez ce quartier du port à Nice, il y a autour de nous, on a vu sur la mer, hein, on est dans un hôtel qui était une vieille bâtisse, la bâtisse Saint-Paul, l'un de ces monuments architecturaux finalement qui ont marqué l'histoire de Nice, car tout autour, sur la colline, on a des sortes de palais, des immeubles anciens qui côtoient des immeubles très récents. On est dans un mélange total de la Côte d'Azur, proche de l'Italie. On est vraiment là, comme vous l'avez vécu quasiment, puisque derrière nous, il y a justement ces grandes bâtisses majestueuses, baroques aussi.
Il y a un côté un peu kitsch aussi dans ce décor.
Je n'osais pas aller jusque-là, mais oui.
Un côté un peu kitsch qui fait penser, je ne sais pas, au mépris de Godard.
Oui,
on a l'impression qu'il aurait pu tourner une scène ici.
Et oui.
Les balustrades blanches, la mer, les goélands qui passent dans le fond. C'est un côté pas très sérieux.
Oui.
Mais en réalité, c'est un endroit qui a une grande histoire, une longue histoire, parce que non loin de là, il y a une grotte, la grotte du Lazaret, qui a été un des premiers endroits habités de la région il y a 50 000 ans. Habité par des pêcheurs nomades qui s'étaient réfugiés dans une grotte. Et puis, un peu plus tard, c'est devenu l'abri des pestiférés.
Mmh.
Les pestiférés étaient ici, c'est pour ça que ça s'appelle le lazaret. Un lazaret, c'est un endroit où on garde les gens malades, en quarantaine. Et puis, c'est devenu le grand séminaire, enfin, un des grands séminaires de Nice. En fait, le petit séminaire, mais en volume, le plus grand séminaire de Nice. Et quand j'étais enfant, c'était fréquenté par des gens habillés en costume aile de corbeau et qui circulaient le long de la mer en évitant de regarder trop du côté de la mer parce qu'il y avait des baigneuses. Et il y avait un côté assez étrange dans ce quartier.
Bon, vous racontez aussi avoir vécu isolé, terré, sans pouvoir sortir. 5 années de solitude étrange, dites-vous. Même à la fin de la guerre, les jardins, les parcs et les plages minées étaient interdites d'accès. Comment l'avez-vous vécu ce confinement, Jean-Marie Gustave Leclésio? Parce qu'en lisant ce récit, alors évidemment la situation n'est pas aussi dramatique, mais on a cette impression de confinement, d'isolement. Quand vous étiez à Roquebilière, sans pouvoir sortir, et même quand vous venez à Nice, rien n'est accessible, tout est fermé. Ce confinement, ça vous a provoqué des réminiscences désagréables?
Ben, en fait, j'ai dit à mes filles, au moment du début du confinement, elles se plaignaient. Je leur ai dit, mais vous savez, moi, je suis né en confinement.
Eh oui.
Le confinement avait déjà commencé. On ne pouvait pas sortir librement dans les rues. Et j'ai passé mon enfance enfermée. Depuis l'âge de 0 jusqu'à l'âge de 5 ans, j'ai été enfermé pendant 5 ans. Le seul moment de liberté, c'est lorsque nous étions à Roquebilière, puisque là, nous avions, grâce à la gentillesse des habitants, nous avions le droit de nous promener un petit peu dans les rues, d'aller voir la rivière, de nous baigner dans la rivière. Mais l'essentiel du temps, c'était ce sentiment qu'il
enfermé,
y avait un
oui.
danger, mmh. il y avait quelque chose qui rôdait, on ne savait pas quoi.
C'est ça.
Et on ne pouvait pas sortir librement.
Donc ça vous a perturbé le confinement, vous? Pas du tout, j'ai pas l'impression.
Pas du tout, j'ai été, je pourrais dire, vacciné à cette époque-là. Maintenant,
oui.
j'ai une profession qui ne m'incite pas à sortir énormément. Donc j'ai pas trop souffert de ça.
Bon.
Et même, je dirais, dans un certain point, cette sorte de silence qui pesait sur la ville, où tout semblait éteint, ça me satisfaisait assez,
ouais.
assez parce
ouais.
que ça donnait une impression d'un recueillement. On se recueille avant de pouvoir ouais. écrire quelque chose ou de penser à quelque chose.
On va laisser la parole à nos libraires, Jean-Marie Gustave Leclésio, les libraires qui ont lu ce texte « L'enfant et la guerre », paru chez Gallimard avec le deuxième conte, hein, chanson bretonne. On va laisser la place à Josiane Letourneau tout de suite, qui est au Canada. Josiane.
Oui, Emmanuel, en fait, je dois te dire que j'ai rarement pris autant de notes de lecture pour un livre aussi bref. Outre sa grande richesse littéraire, c'est une immense et multiple charge que j'y ai sentie. D'emblée, j'ai cru que cette œuvre avait été dictée par la nostalgie, mais ce qui est finalement ressorti pour moi de ces deux contes, c'est l'honnêteté implacable du regard de l'enfant. Bref, pour une rare fois dans ma vie de lectrice, je me suis reposée, déposée sur ces pages sans y chercher autre chose que cette beauté sans détour qu'elle déploie, et je n'ai pas eu besoin d'autre chose.
Merci Josiane. Dominique Bressot pour la Suisse, qu'en pensez-vous?
Oui, alors ça paraît sûrement un peu bizarre de parler d'émotions justes pour les contes de M. Leclésio, mais il faudrait sûrement plutôt mettre en avant la justesse des propos, chaque mot parfaitement choisi. Mais en fait, c'est ce que j'ai ressenti en lisant ces contes, la juste émotion avec une certaine nostalgie, sans amertume, qu'il a exprimé dans des souvenirs qu'il a gardés des paysages comme des gens, dont la part d'ombre reste légèrement voilée pour ne révéler que la beauté et la force de vie.
Et enfin, en Belgique, c'est Déborah Damblon qui a lu le livre de Jean-Marie-Gustave Le Clézio. Quel est votre avis, Déborah ?
Eh bien, comme mes petites camarades, mes grandes camarades, Emmanuel, c'est entrer dans un des textes de Le Clézio. Pour moi, c'est vraiment se plonger dans un absolu. Mais confortablement, vous voyez, quand on goûte une saveur de l'enfance, on se retrouve dans un monde très concret, très précis, formidablement descriptif, où chaque mot est tout à fait juste et où pourtant il mène à cet absolu. Et les souvenirs ont beau être les siens, ils ont un goût d'universel dans lequel on se retrouve, même si on n'a pas du tout vécu la même chose.
Jean-Marie-Gustave Le Clézio, vous parlez de ce moment et de cette photo où vous êtes, après la libération, sur la plage de la Réserve. Une plage qui est juste à côté de nous. Et vous êtes habillé en petit montagnard, les yeux plissés, comme extirpés de votre tanière.
Oui, nous avions des costumes ensuite qui étaient très proches des costumes des montagnards. Comme nous sortions de l'hiver qui est assez rigoureux dans l'arrière-pays niçois, nous venions, ça devait être le mois d'avril, le mois de mai peut-être, nous arrivions ici et nous avions encore les peaux de mouton retournées, les guêtres, les galoches en bois et les cheveux hirsutes en fin de compte. Donc nous avions vraiment l'air d'être sortis d'une tanière.
Ouais.
Et donc c'est ce premier contact. Bien sûr, on se fait au bonheur beaucoup plus vite qu'on l'imagine. Donc je pense que l'été qui a suivi, nous avons pris nos premiers bains de mer et nous avons découvert la liberté.
Alors justement, l'été qui a suivi, il y a ce départ en Afrique pour rejoindre votre père. Parce que votre père n'est pas là, il est en Afrique au moment de la guerre. Et vous dites, il le fallait, c'était nécessaire, il fallait partir. En 45-46, vous partez, vous quittez la France.
Oui, nous avons pensé à ce moment-là, enfin moi j'ai pensé que je ne reviendrai jamais, que c'était le voyage pour toujours, le voyage d'adieu éternel à ce pays et à, pour le moment, à la guerre aussi. J'ai pensé qu'on allait vers quelque chose de complètement nouveau. Et effectivement, c'était nouveau, c'était un monde, je ne dirais pas sauvage, mais un monde qui ne connaissait pas les mêmes règles que le monde urbain. C'était dans la brousse, avec la liberté, un ciel immense, une chaleur très forte, des rivières puissantes et des orages extraordinaires. Donc tout ça, je pense que ça a été l'occasion de passer de l'univers de la guerre à l'univers urbain par la suite.
Ouais.
Ça m'a permis de faire ce passage.
Mais vous dites, nous venions de l'Europe ancienne, la région la plus développée du monde, qui n'a utilisé son progrès technique que pour produire des armes de mort. C'est l'Afrique qui va nous civiliser.
Oui, parce que quand nous étions ici, nous n'avions pas d'amis, nous ne connaissions personne. Nous vivions dans cette atmosphère de peur continuelle. Et la liberté, nous l'avons connue en Afrique. Et non seulement la liberté, mais la liberté avec les autres. Mmh. Les jeunes Africains, tout de suite, ont été accueillants, nous ont aimés, nous ont appris à jouer, garçons et filles, ensemble. Et ils étaient beaucoup plus mûrs que nous, parce que à 7-8 ans, les Africains ont déjà une expérience de la vie qui est beaucoup plus grande. Donc ils nous ont montré ce que c'était que la vraie vie. Il y a un exemple assez puissant de tout cela, c'est que quand nous sommes arrivés en Afrique, nous sommes conduits d'abord comme des barbares. Nous avons déniché des bâtons et nous avons cassé les termitières. Et les jeunes garçons et filles africaines nous ont dit « Mais ne faites pas ça, les termites sont des dieux. Vous êtes en train de nous attirer des ennuis en démolissant les termitières. » Et nous avons cessé de le faire. Nous avons appris un degré
De respect de la nature.
De respect de la nature que nous n'avions pas jusque-là. Ouais. Parce que nous ne connaissions pas la nature.
Et en 1948, vous rentrez en France, ici dans le sud, et vous irez en vacances en Bretagne. Autre lieu fondateur pour vous, vous avez entre 8 et 14 ans à ce moment-là.
Oui, c'est ça.
Tous les étés, c'est l'endroit qui vous apporte le plus d'émotions, c'est ce que vous dites. Vous y vivez des aventures simples et extraordinaires à la fois, qui vont résonner en chaque vacancier qui nous écoute. Vous allez nous en parler, mais ce sera dans 3 semaines, dans la librairie francophone estivale, sur France Inter, sur la RTS, ici Radio-Canada, RTBF et sur tous les réseaux de RFI partout dans le monde. On se retrouve donc dans 3 semaines, Jean-Marie.
C'est cela. Merci, Emmanuel.
Merci à vous, Jean-Marie-Gustave Le Clézio. Chanson bretonne et L'enfant de la guerre, 2 contes, sont parus chez Gallimard. Et on quitte Nice pour aller à la Maison de la Radio avec Amélie Nothomb et Stéphanie Hochet qui parlent des chats. Un moment de radio réjouissant juste après le chanteur Yacine Stein.
Je croyais que c'était jusqu'à la mort. Je voulais qu'on s'aime pas comme mes parents. Peine serrée, partie pour pas grand chose. Ça donne de l'inspi, il paraît. Pas grand chose pour qu'on mérite. Si je pars en couille, faut qu'on m'arrête. Mais ce sera sans elle, pas sans barrette. On a passé l'épreuve, on a fait le test. J'ai vu l'amour, j'ai pas vu le temps passer. C'est tellement plus simple quand on se déteste. Tellement plus simple quand je veux plus t'embrasser. Je suis revenu vite de mon aller simple. Je pensais pas que ce serait dur de s'en passer. C'est tellement plus simple quand on se déteste.
Tellement plus simple quand je veux plus t'embrasser. Je fais pas la bise, on s'est pas quitté. Mais on s'est quitté. Je te jure, je voulais pas voir les lèvres qui coulent. On s'est pas quitté. Mais on s'est quitté. Je voulais pas voir tous ces mecs qui coulent. Je voulais retrouver ma vie, non, je suis pas si con. Mais l'un jouerai jamais classico. Maman me regarde, j'ai les yeux qui tombent. Je voulais pas voir tous ces mecs qui courent. Je voulais trouver ma vie, non, je suis pas si con. Mais l'un jouerai jamais classico. Maman me regarde, j'ai les yeux qui tombent.
Je suis aussi dur qu'une femme, j'ai la douceur d'un allié en temps de guerre. Les lesbiennes m'adorent, je sais pas comment je dois le prendre, je sais comment faire du cash, et surtout comment tout perdre. Ils se prennent pour tout pas qu'ils sont du père. Comme les mecs là-bas qui sont des pères de pute. Jamais eu de pec, j'ai rien du père. Descendant de maman, j'ai rien du père. J'ai mal à la dent, j'ai mal au cœur. Tyler a dit, pour toucher les fonds, tu dois tout prendre. Pour toucher le fond, tu dois tout perdre. J'ai mis de la main dans la théière. J'ai mis ma main feu le théière. J'ai mis la broque dans le Tupperware. Yeux rouges, Marrakech, butter. Je voulais planter ma reine comme John. D'autres voulaient planter Reagan. Je voulais planter ma graine en elle. Elle, elle m'a planté légalement. J'ai que dommage collatéraux. Je crois que je vais faire trop de dégâts. Y'a plus que des Uber dans la ville. Je fais plus peur comme une Mégane blanche.
Je fais pas la bise, on s'est pas quitté. Mais on s'est quitté. Je te jure, je voulais pas voir les nez qui coulent. On s'est pas quitté. Mais on s'est quitté. Je voulais pas voir tous ces nez qui coulent. Je voulais retrouver ma vie, non, je suis pas si con. Mais l'un coup, j'aurais jamais classico. Maman me regarde, j'ai les yeux qui tombent. Je voulais pas voir tous ces nez qui courent. Je voulais trouver ma vie, non, je suis pas si con. Mais l'âme que j'aurais jamais classico. Maman me regarde, j'ai les yeux qui tombent.
C'était Yacine Stein avec Marrakech Butter. Et on part à la maison de la radio pour un extrait d'une conférence en public avec Amélie Nothomb et Stéphanie Hochet.
La librairie francophone, une émission coproduite par les médias francophones publics.
RTS La Première.
Ici Radio-Canada Première.
RTBF La Première.
France Inter.
Merci d'être avec nous au studio 105 de la Maison de la Radio avec Amélie Nothomb qui invite aujourd'hui Stéphanie Hochet. C'est le club francophone d'Amélie. Bonjour Amélie Nothomb.
Bonjour Emmanuel Quirade.
Alors vous avez invité Stéphanie Hochet. Pourquoi Stéphanie Hochet, dites-nous.
Stéphanie Hochet est un grand écrivain français. Elle est pour moi la personnalisation de Paris. Quand j'ai débarqué à Paris il y a 25 ans, je ne connaissais absolument pas les Français et j'étais effarée parce que vous n'imaginez pas le fossé qui sépare les Belges des Français. Et les Parisiens, c'est encore plus difficile. Donc moi, je me disais, il faut que j'entre en contact avec les indigènes. Donc comment faire? Donc j'ai cherché une indigène et j'en ai trouvé une.
Et qui a publié donc récemment Éloge voluptueux du chat aux éditions Philippe Ray. Voilà, livre que je montre au public. On va parler des chats, donc, si vous voulez bien. Les chats, Stéphanie Hochet, bonjour d'abord. Merci
bonjour.
D'être avec nous.
Merci beaucoup.
Effectivement, le chat, animal domestique préféré, compagnon des écrivains, animal mystique aussi, sacré parfois. C'est compliqué de se faire ennemi avec un chat?
De se faire ennemi, oui. Ou de se faire aimer?
Bah justement, répondez comme vous voulez.
Je pense que le chat vous met un petit peu à égalité, c'est-à-dire que vous devez le séduire, il doit vous séduire, et en ça se passe assez différemment des autres animaux, c'est ça qui est intéressant pour moi.
Il y a une préface de Gilles Lapouge qui dit dans la préface que le chat est un animal distingué, mais c'est aussi un goinfre. Vous avez eu, vous, un chat qui est tombé dans un sac de croquettes quand il était petit?
Absolument.
C'est ce que vous racontez.
C'est la version Obélix du chat. Donc, lui, il était tombé dans le sac de croquettes et il est resté amoureux des croquettes toute sa vie. C'est-à-dire qu'il était, quasi boulimique, hein, et en fait c'était un chat très calme, très zen, comme beaucoup de chats en fait, qui peuvent avoir cette espèce de figure un peu de petit Bouddha, et il y avait une forte connivence entre lui et moi. C'était vraiment un chat que je ne pourrais pas remplacer aujourd'hui, mais bon, si je ratais un petit peu l'heure du repas, il sautait sur la table et poussait les objets de la pâte, et voilà, il faisait tomber tous les objets, donc c'était particulier.
Amélie Nothomb.
Je crois que je suis la personne qui te connaît le mieux au monde. Ça fait 21 ans que je te connais. Et je me sens tout à fait en mesure d'affirmer que Stéphanie est un chat.
Oui. Je vais expliquer pourquoi d'ailleurs, parce qu'il y a une histoire incroyable.
Oui, vraiment.
Qui est dans le livre.
Mais je vous laisse l'expliquer.
Allez-y.
Bon, Stéphanie avait et a toujours des parents. Mais c'était l'un et l'autre travaillaient. Et quand Stéphanie rentrait de l'école, les parents n'étaient pas là, mais il y avait les chats. Et qu'à cela ne tienne, Stéphanie prenait son goûter avec les chats, allait jouer dans le jardin avec les chats, montait dans les arbres avec les chats. Et je crois que c'est pour ça que Stéphanie a adopté absolument toutes les manières du chat. Stéphanie est en effet, comment dirais-je, très peu soucieuse du qu'en dira-t-on.
Oui.
Très égoïste.
Ah oui. Non, pas égoïste, individualiste.
Individualiste, d'accord. Ouais. C'est-à-dire, en même temps, peu lui importe de déplaire. Stéphanie est une force qui va. Elle dit ce qu'elle a à dire, elle fait ce qu'elle a à faire. Si vous aimez, tant mieux. Si vous n'aimez pas, c'est pas grave. Et pour moi, c'est vraiment ça, les chats. Et c'est une chose qui me fascine parce que c'est exactement le contraire de tout ce qu'on m'a appris. Moi, on m'a pris les valeurs, je ne sais pas exactement de quel animal, mais de l'anti-chat, va-t-on dire. Et quand j'ai rencontré Stéphanie, j'ai d'abord cru que tous les Français étaient comme toi. J'ai découvert que ce n'était pas tout à fait vrai. Stéphanie, c'est un peu le chat français, vous voyez. Donc, c'est exactement ça.
À la fois, je suis contente d'avoir ma biographe, mais je dois quand même incarner tout ça, ce qui n'est pas toujours évident, quoi.
Sacré caractère, en tout cas, hein, Stéphanie.
Bon, je ne sais pas. Après, bah, vous savez, c'est une artiste, elle a son interprétation.
Bien sûr, évidemment. Alors, l'histoire incroyable, vous ne l'avez pas racontée, Amélie, parce qu'il y en a une qui remonte à l'enfance, à la petite enfance. Il faut savoir que Stéphanie avait un chat quand elle était bébé, enfin les parents avaient un chat. Et lorsque vous étiez bébé, il y avait un chat qui dormait dans votre berceau.
Eh oui.
Alors ça peut paraître très dangereux parce que le chat est souvent jaloux.
Mais en fait, c'était pas volontaire, mais mes parents avaient un chat et ils l'ont retrouvé dans mon berceau quand je dormais.
Mais un vrai, pas une peluche.
En fait, ils ont été...
Un vrai.
Oui, alors c'est vrai qu'aujourd'hui, quand je dis ça, les gens sont un peu effrayés. Oh là là, il aurait pu l'étouffer, mais pas du tout, en fait. Mais je crois que c'est le début de ma mythologie, ça. C'est le début de mon
incarnation.
C'est comme
ça que vous avez pris le caractère du chat.
Ouais, en tout cas, j'ai été très proche d'eux, c'est certain.
Vous avez des histoires de chats, Amélie Nothomb?
Oh, des histoires beaucoup moins belles. J'avais en Belgique une grand-mère, j'ai beaucoup parlé de ma grand-mère, mais c'est parce que je suis très traumatisée. Ma grand-mère était en Belgique une méchanceté célèbre. Et ma grand-mère avait l'exécration des chats. Et je suis épouvantée par ce que je vais dire, mais c'est juste la vérité. Elle était serial killer de chats.
Ah oui.
Tout un quartier de Bruxelles, pendant 50 années, a vu tous ses chats disparaître à cause de ma grand-mère. Ma grand-mère attrapait les chats, les faisait mourir dans d'atroces souffrances et puis se débarrassait du cadavre. Donc, je l'ai vu faire. Ma grand-mère était très méchante et en même temps très jalouse des chats. Elle tuait les chats par jalousie. Et tout ceci m'a fait aimer les chats profondément. Ma grand-mère me détestait, pourtant je pense très honnêtement.
Ah, en plus ?
Oh mon Dieu, je pense que je suis la personne qu'elle a le plus détestée de sa vie. Alors, elle avait déjà pour ça un motif, elle disait « Tu n'es qu'un faucheton comme ton père ». Donc déjà, je ressemblais à mon père, donc c'était un très mauvais argument.
Ça a bien commencé pour vous, Amélie, dans la vie. Hein,
vous savez, le simple fait d'avoir une famille
est
presque
tout.
Toujours un obstacle, hein, n'est-ce pas?
Oui, ça complique tout.
Moi, je suis toujours sidérée quand je vois des gens qui vont à des réunions de famille, l'air content. Moi, quand je vais à une réunion de famille, je sais que ça va être le moment le plus traumatisant de ma vie.
Le ronronnement des chats, il y a tout un article dans votre livre sur le ronronnement, qui n'est pas vraiment ce qu'on croit d'ailleurs. Hein. Ils font ça pour se rassurer, non pas pour montrer
qu'ils sont
bien.
C'est très mystérieux, on ne sait pas si c'est... En fait, ce n'est pas forcément lié au plaisir et au bien-être.
Amélie se sert une petite coupe de champagne.
Et j'espérais le faire discrètement, mais avec vous, Emmanuel, ça ne sera pas du tout.
Avec vous, Emmanuel. On est en public, il y a la bouteille sur la table, Amélie.
Moi,
je suis obligée de commenter.
Je tablais sur le fait que personne ne me voyait.
Alors tiens, le ronronnement, tiens, ça va coller avec le bruit des bulles du champagne.
Oui, on a découvert que c'était pas forcément lié au bien-être de l'animal, même si ça peut l'être évidemment, mais ça peut être aussi signe de souffrance.
Ouais.
Ce sont des sons tellement bas que ça détend énormément donc le chat et y compris les propriétaires. Enfin, propriétaire est un grand mot, mais il y a beaucoup de livres qui proposent une guérison par le ronronnement, ouais. La ronronthérapie, etc. Quoi. Il y a même des disques. J'ai découvert des disques, qui étaient des enregistrements de ronronnement.
Et si vous n'avez pas de chat, achetez le disque.
Voilà, c'est ça.
Puis au moins, ce sera sur commande. Hein. Il suffit d'appuyer sur lecture et c'est bon. Merci Amélie.
Merci infiniment.
Vous êtes magnifique.
Merci mille fois.
Amélie Nothomb, mesdames et messieurs.
La librairie francophone, Emmanuel Kérad.
Et on passe à la chronique des libraires. On commence par un coup de cœur en Suisse, Dominique Bressou.
Oui, alors c'est un coup de cœur pour La Dormeuse de Catherine Roland aux éditions Okama. Là, on est vraiment dans le roman idéal pour se changer les idées cet été. Catherine Roland aime faire voyager ses personnages non seulement dans l'espace, mais aussi dans le temps. Et c'est ainsi qu'en partant de notre époque, quelque part en France, elle arrive à nous embarquer pour Pompéi, mais attention, juste avant l'éruption du Vésuve. Et que dire de plus, sinon que les personnages sont très attachants, le suspense bien présent. Bref, on reste prisonnier de ce livre jusqu'au bout.
La Dormeuse de Christine Roland qui nous change donc de l'ambiance actuelle, c'est formidable. Il faut lire ce livre, c'est aux éditions Okama. Merci Dominique. Autre coup de cœur en France, Thomas Auxerre.
Eh ben oui, Emmanuel, moi c'est pour un livre qui s'appelle Alma, c'est écrit par Timothée de Fombelle. Alors c'est un roman jeunesse, hein, c'est aux éditions Gallimard Jeunesse. Bah écoutez, moi je l'ai lu cette semaine et c'est rare, mais c'est un livre que j'ai été obligé de lire un peu avec des freins. Parce qu'il était tellement génial, j'ai tellement adoré que je me suis dit, bon, faut pas que je mange tout d'un coup, sinon j'en aurai plus après. En gros, ça se passe en 1786, on est avec Alma, qui est une jeune fille qui va se faire kidnapper par un navire français et qui va partir aux États-Unis. En fait, on est en plein esclavage et plein commerce triangulaire. Il est question de pirates, il est question d'aventure, il est question de liberté. Franchement, c'est génial, il y a des dessins. Enfin, vraiment, précipitez-vous, c'est à partir de 12 ans, c'est génial.
Oui, c'est ça, j'allais dire, c'est à partir de quel âge? De 12 ans?
À partir de 12 ans, ouais, ouais.
Et vous avez quel âge, Thomas?
J'ai un peu plus que 12 ans, mais pour les parents, ça marche très bien aussi.
Ah oui, d'accord, non, parce que je m'inquiétais. Ok. le vent se lève aux éditions Gallimard Jeunesse. Merci Thomas. On termine avec deux coups de gueule qui sont en résonance. Déborah Damblon, pour commencer en Belgique. Vous êtes énervée, Déborah.
Bah oui, oui, mais c'est la suite de mon énervement de la fois passée. Eh vous vous souvenez, Manuel?
Oui.
Quand je vous ai dit que nous, les Belges, on n'était pas assez chauvins. Je crois que j'ai de quoi faire, mais une longue, longue série sur le sujet, parce que plus je creuse l'idée, et bien plus j'ai des mauvaises surprises. Qui mieux que les bibliothèques pour soutenir les auteurs nationaux? Eh bien, figurez-vous que chez nous, il n'y a pas de réelle consigne d'achat pour soutenir la production belge, ni pour les auteurs, ni pour les éditeurs. Alors, heureusement, il y a certaines bibliothèques qui le font d'initiative, mais un petit peu de soutien institutionnalisé, ça ne pourrait pas faire de mal, non?
D'accord. Josiane Etourneau pour le Canada, c'est quoi votre coup de gueule, vous?
Ben en fait, c'est un constat que je fais suite à ces semaines de points de presse quotidiens autour d'une pandémie dont vous avez peut-être entendu parler et de tout le processus de reprise du côté de la culture. Alors, à chaque fois qu'il a été question des artistes et qu'on a félicité les créateurs et créatrices pour toutes les initiatives qui ont été prises pendant le confinement ou qu'on a parlé de conséquences financières, bien, on oubliait systématiquement les autrices et les auteurs. Je sais que dans les mesures de soutien, ils ne seront pas oubliés, mais publiquement, il n'était jamais cité. Et honnêtement, non seulement ça m'a choqué, mais je trouve ça extrêmement révélateur, cet oubli de la place, de la présence qu'occupe la littérature dans certains esprits et cet oubli dans la bouche de nos officiels, comme on dit en québécois, ça a mal passé.
Bon, on oublie les auteurs au Québec, on oublie les auteurs belges en Belgique. Voilà, tout ça ne va pas très bien. Merci pour ces coups de gueule, en tout cas, vous avez raison de le souligner. Merci à vous tous, en tout cas, pour cette saison un petit peu spéciale, mais saison magnifique quand même. Au revoir.
Au revoir Emmanuel.
Au revoir Emmanuel.
Bel été, Emmanuel.
Bon été, Emmanuel.
Eh bien, bon été à vous. Merci beaucoup. On finit cette émission avec une petite surprise, un avant-goût de la nouvelle saison de la librairie francophone estivale. La première, ce sera le week-end prochain sur France Inter, la RTS, la RTBF, Radio-Canada, puis sur RFI. Petit extrait à Marseille et au Casino de Montréal avec trois personnalités, deux lieux où nous irons pour la première de la saison.
Yeah, man.
Bonjour François-Olivier Gisbert.
Bonjour.
Bonjour David Walters.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous portez la culture marseillaise tous les deux à votre façon, mais vous êtes des Marseillais d'adoption, David.
Je crois comme tout le monde ici. Hein. Je pense que tout le monde ici est Marseillais d'adoption. Marseille, les portes du monde, les portes de l'Afrique.
Ouais, moi ça fait 20 ans que je traîne mes guêtres ici, donc depuis le temps, bah, je me suis incrusté, puis je crois que je fais partie de la famille. Je me sens complètement marseillais, 100% d'ailleurs, c'est ma résidence principale, enfin voilà, je suis ici. Quoi.
François-Olivier Gisbert, dans votre livre « Dernier été », paru chez Gallimard, vous êtes le premier d'une longue liste à venir, malheureusement, à publier sur la crise sanitaire.
Mais un livre sur le...
Attendez. C'est quand même très troublant, France, parce oui. qu'il est sorti au mois de mai, et vous parlez du Covid-30, vous parlez de la crise sanitaire, vous l'avez écrit à toute vitesse pendant le confinement, ce livre ?
Non, pas du tout, je l'ai commencé il y a plus d'un an. Et donc il est fini, je le donne chez Gallimard, et puis arrive le Covid. Oh ben je suis trop con. C'est là-dessus. Enfin, je veux dire, il va, ça va très bien avec. Je le dis à l'éditeur, qui dit bah oui, bien entendu, etc.
Vous avez corrigé.
Oui, j'ai rajouté des petites choses ici et là sur le Covid, avec un côté un petit peu, oui, très moqueur sur la situation. Bien que ce Covid de 30, nous sommes dans 10 ans, bien que ce Covid soit quand même moins tueur que le précédent, le Covid-19,
vous connaître. Vous savez plus là.
Oui.
Il est tellement dans la projection qu'il sait plus. Donc le Covid-30, okay, effectivement.
Okay, vous verrez quand vous aurez mon âge.
Nous voilà arrivés au Vallon des Auffes, ici à Marseille, avec la mer qui est juste derrière nous là. Quand on penche la tête, on a la mer.
Il y a le port.
Il y a le port, mais le port c'est pas pareil.
Oui, c'est pas pareil, mais c'est quand même d'ici que je pars, tu vois. Du pont là, quand je vais nager le soir, bon, pas aujourd'hui parce qu'il y a du mistral, mais je me mets au pont ici et puis je pars nager. Regarde autour de toi, et ça c'est vraiment Marseille. Tu peux venir de n'importe quel quartier, tu peux venir des quartiers nord, tu peux venir d'Algérie, tu peux venir d'où tu veux, tu peux venir d'Afrique. Tu as accès gratuitement à tout ça. Je trouve que c'est vraiment magique, ça sûr, c'est vrai. Pour moi, Marseille, c'est ça.
Franz, vous dites dans votre livre, son statut de port amène Marseille à tout brasser. Les peuples, les classes sociales. Le gueux et le milliardaire habillés pareillement, t-shirts, shorts et tongs, qui se disent de tout, d'égal à égal, dans un café du vieux port.
Ici, tout le monde est quelqu'un.
Ah, je l'ai. Bye. Là, j'ai une partie gratuite. Là, ça vous donne tout, là.
Mais combien vous avez gagné, là, Denis? Mais
attendez, on va voir.
C'est énorme.
On va voir combien je gagne. Là. Ben, j'ai gagné.
Mais ça monte.
Voilà. Vous voyez le bruit que ça fait, marqué Big Win.
Alors nous sommes au casino de Montréal, c'est pour ça que vous entendez cette ambiance très chargée ici. Hein. Il y a énormément de machines à sous, c'est un immense casino sur 3-4 étages.
Mais non, pas tellement, c'est parce que vous n'avez pas vu les grands casinos américains.
Ah oui, non mais c'est pas comparable, d'accord.
Casino de 4-5 000 machines à sous là.
Je parle de casino francophone, Denise.
Ah, francophone.
On est dans la librairie francophone.
Ah, c'est vrai, oui, c'est surtout qu'en France, c'est tout des petits casinos de rien du tout, avec 45 machines et 200 personnes qui sont derrière les 45 personnes qui jouent. C'est vraiment terrible. Bonjour. Non, je suis en train d'être interviewée.
Elle a gagné 7 millions de dollars tout à l'heure. C'est pour ça que nous sommes venus.
Ah oui.
Denise Bombardier a-t-elle gagné devant nous 7 millions de dollars au casino de Montréal? David Walters et François-Olivier Gisbert seront-ils d'accord à Marseille sur la religion et la politique? La réponse la semaine prochaine dans la librairie francophone estivale. Et c'est la fin de cette dernière librairie francophone classique de la saison. Je vous retrouve sur Facebook, Twitter et Instagram pour communiquer avec vous à la réalisation Le Magicien Cyril Pascal avec Serge Viguier, Thierry Dupin, la prog musicale. À la rédaction Jean-Philippe Verret avec Christophe Magère pour France Inter, René Mikils pour la RTBF, Jean-Marie Félix pour la RTS, Jacqueline Castonguet et Elsa Pépin pour Radio-Canada. On se retrouve la semaine prochaine pour la première librairie francophone estivale, 4e saison déjà. N'oubliez pas la version télé de la librairie à partir du 26 juin. Merci pour votre fidélité, pour votre soutien et votre bienveillance tout au long de cette année compliquée. Vous avez fait de ce programme l'émission livre numéro 1, télé et radio confondues. J'espère qu'on vous a fait rêver et voyager une nouvelle fois. Nous, on a rêvé grâce à vous. Bon week-end et bel été à tous.